France Inter, franceinter.com.
Nous allons parler aujourd'hui en effet d'une star de la danse au XXe siècle, Rudolf Nureyev. Nureyev n'était pas un danseur, il était la danse. Margot Fontaine. Mille ans d'histoire. La scène est une cathédrale, disait Nureyev quand on lui demandait ce que la danse était pour lui. Et il n'aurait pas été surpris que ses obsèques se déroulent dans une de ces cathédrales où il avait connu quelques-uns de ses plus grands succès. Le 12 janvier 1993, le palais Garnier était noir de monde, quand le corps de Rudolf Nureyev y entrait, porté par 6 danseurs. Ce jour-là, à l'Opéra de Paris, 700 invités étaient venus des quatre coins du monde pour rendre hommage à celui qui fut, avec Nijinsky, le plus grand danseur du XXe siècle. Puis le corps, précédé par des motards, fut transporté vers Sainte-Geneviève-des-Bois, dans un cimetière russe de la région parisienne où Nureyev retrouvait la terre de son pays natal, qu'il avait quitté 32 ans plus tôt, pour se consacrer librement à son art jusqu'à son dernier jour, le 16 janvier 1993.
Rudolf Nureyev est mort hier à Paris du sida à l'âge de 54 ans. Il fut le plus grand danseur de sa génération, en quelque sorte un nouveau Nijinsky. Le témoignage de Jean-Albert Cartier, ancien directeur de l'Opéra de Paris, au micro de Philippe Lefebvre.
C'était un homme qui voulait être aimé et qui ne prenait pas toujours les moyens de l'être. Donc, qui pouvait être violent, qui pouvait être brutal, mais qui en même temps était animé d'une grande tendresse, et on pourrait le comparer à une espèce de fauve. Vous savez, ces grands fauves que l'on croit pouvoir promener en liberté, et puis qui de temps en temps envoient un coup de patte, on ne sait pas pourquoi. Mais tous ceux qui ont approché Nureyev ont toujours été fascinés.
Marianne Dolfus, bonjour.
Bonjour.
Ah, vous venez d'entendre cette archive, cette musique aussi, et cette archive du 6 janvier 1993, et non pas le 16 janvier. Le 6 janvier, c'était la mort de Nureyev. Vous aussi, vous avez été fasciné par ce personnage. Vous l'écrivez dans une biographie passionnante que vous venez de lui consacrer chez Flammarion. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus en lui quand vous l'avez vu? Je crois que vous aviez 10 ans. Hein. C'était la première fois que vous voyez Nureyev.
Oui, tout à fait. Mais je crois que, comme tous les autres spectateurs, Nureyev apportait une espèce de fougue en scène. Il ne dansait pas ses personnages, il était ses personnages. Il incarnait aussi la musique. Mmh. Et je crois que beaucoup d'autres danseurs ont été très brillants, mais je crois que Nureyev était au-dessus des autres. Il n'a pas été sans doute le meilleur danseur du monde et le meilleur danseur de son temps, mais certainement le plus grand.
Et le plus présent. Et puis alors surtout, ce qui est fascinant quand on vous lit Ariane Dolfus, c'est que ce n'est pas seulement une carrière, vous le dites vous-même, c'est aussi une vie totalement extraordinairement romanesque, et ça, dès le premier jour. D'abord, on ne sait même pas où il est né, parce qu'il est né dans un train, quelque part en Sibérie.
Il est né à bord du Transsibérien, effectivement, le 17 mars 1938. Sa mère et ses 3 sœurs allaient vers Vladivostok, où son père était en garnison. Et il est né, donc, plus précocement qu'il n'était prévu. Alors, Nureyev raconte dans son autobiographie, elle est très intéressante, son autobiographie, parce qu'il y a beaucoup de choses vraies et beaucoup de choses légèrement romancées. Il dit que il est né aux abords du lac Baïkal. Et il dit que sa sœur est descendue du train à Irkoutsk pour annoncer la nouvelle à son père. Or, si l'on regarde bien sur une carte, Irkoutsk n'est pas tout à fait au bord du lac Baïkal. Donc, il y a eu chez Nureyev une envie de romancer un petit peu, de modifier un petit peu le cours des choses. Et ce sera assez permanent dans sa vie que de dire que ce qu'il avait envie de dire et de cacher d'autres choses, et notamment ce passé russe qui a toujours été extrêmement dur pour lui.
Oui, et puis alors, il est le seul garçon d'une famille, je crois qu'il y avait 3 sœurs, et alors d'une famille famille dans laquelle il n'était pas du tout prédestiné à devenir danseur. Vous rappelez que son père était commissaire politique de l'armée rouge et que lui, alors, il était épouvanté par la vocation, par l'amour que son fils portait à la danse et à la musique.
Ah, pour le père de Rudolf Nureyev, Ahmed, il était strictement impensable que son fils exerce un métier qui n'était pas un métier pour lui. Enfin, la famille Nureyev, c'est très intéressant parce que ils sont musulmans, ils sont tatars, d'origine musulmane. Le père et la mère ont grandi dans une école coranique. Ils ont donc appris l'arabe également. Et on sent bien qu'il y a des traces de cet héritage musulman chez Nureyev. Mais la famille Nureyev décide de stopper net toute pratique religieuse à partir du moment où le régime soviétique s'installe. Et pour eux, il leur semble que le prophète Staline est plus intéressant que le prophète Mahomet, quelque part.
Mais en revanche, il ne rompt pas, en tout cas, Rudolf Nureyev ne rompt pas et même revendique ses origines tatares. Vous le citez, je ne suis pas russe, mais tatare. Le tatare est un animal complexe, savant mélange de tendresse et de brutalité. Ça, c'était l'autoportrait de Nureyev que vous faites. Et alors, il découvre la musique, la danse très jeune, il a 7 ans, il est à l'opéra d'Oufa avec sa mère, son père est à ce moment-là disparu pendant 5 ans pour
faire la guerre,
il est sur le front,
oui,
hein. Et avec sa mère, ils vivent dans une misère absolument noire, il découvre l'opéra et du coup, sa vocation, il apprend en cachette à danser, et puis il va parvenir en de nombreuses années, hein, il a mis quand même pas mal de temps, à entrer dans un des deux ballets les plus célèbres de Russie, avec le Bolchoï, le ballet Kirov de Leningrad, et là, vraiment, il est très marginal comme personnage, très indépendant, ses condisciples ne l'aiment pas tellement, les autres danseurs ne l'aiment pas tellement. Vous dites, d'ailleurs, c'est le sous-titre de votre livre, « Un insoumis ».
Ah oui, alors là, s'il fallait bien trouver un insoumis, c'est bien Nureyev. Nureyev n'a jamais pu se faire à la moindre règle, à la moindre loi, hormis celle de la danse. Et effectivement, lorsqu'il arrive à Leningrad, d'abord, il est un étranger quelque part en son pays. Il est tatar. Et ce n'est pas arrivé d'une république d'Asie, de l'Oural à Leningrad à cette époque, c'est être un peu un moujik, comme on l'a dit, hein, comme le disaient ses petits camarades. Il est très mal considéré et rien ne peut, il n'arrange pas véritablement la situation puisque effectivement il se comporte en jeune garçon très rebelle, très arrogant, à la fois par frustration parce qu'il sait qu'il lui faut prouver qu'il peut être le plus grand et le meilleur et aussi parce qu'on se moque beaucoup de lui. Il n'a pas le physique habituel de ce qu'on appelle un danseur noble.
Alors ça ne l'empêche pas d'avoir un succès considérable dans son pays alors qu'il est totalement encore inconnu en Occident, quand il arrive à Paris en 1961. Alors là, il fait un triomphe en mai 1961. Il devient tout de suite extrêmement populaire. Et alors, coup de théâtre, le jour où il doit rentrer à Moscou, le 16 juin 1961, à l'aéroport du Bourget, eh bien, Nureyev décide à la dernière minute de rester en France.
On l'a appris, voici 2 heures maintenant, que Rudolf Nureyev a choisi la liberté. Rudolf Nureyev, c'est bien sûr, vous le savez, le danseur étoile soviétique qui, avec ses camarades de la troupe du théâtre Kirov de Leningrad, vient de faire courir tout Paris. Rudolf Nureyev, donc, a demandé à rester en France en bénéficiant du droit d'asile.
Da. Il dit qu'il va rester certainement quelque temps. Et
bon, il a choisi la liberté. Est-ce qu'il peut donner une ou deux raisons personnelles?
Я бы сказал, что это просто большой конфликт между организаторами Ленинградской труппы, и поэтому я не могу ответить прямо на этот вопрос.
Il dit qu'il ne peut pas répondre directement, qu'il y a eu un sort de malentendu, un conflit entre lui et la compagnie Kirov, et que sur le présent, il ne peut pas répondre directement.
Et c'était la voix de Nureyev qu'on a entendue pour la première fois à la radio. C'était le jour où il est passé à l'ouest, comme on disait. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'avait pas du tout prémédité son coup. Quand il arrive à Paris, il était bien décidé à suivre la troupe du ballet Kirov à Londres, puis de revenir à Moscou. Là, c'est vraiment, à la dernière minute, c'est vraiment une scène, ce qui se passe au Bourget ce jour-là. C'est vraiment une scène de film d'espionnage, Ariane Dollfuss.
Ah, c'est très étonnant ce qui se passe. Alors, prémédité, ça, la question question se pose quand même, parce que au cours de la, lorsqu'il était à Paris, il a dit à quelques Français, ça qui me l'ont raconté, et qu'est-ce qu'il se passe si je restais à Paris ? Dans le fond, il en mourait d'envie. Simplement, il ne savait pas comment il allait s'y prendre. Et curieusement, c'est le KGB qui va l'y aider, puisque effectivement, à l'aéroport du Bourget, lorsqu'il arrive avec le reste de la troupe pour partir pour Londres, un membre du KGB lui dit « Toi, camarade, allez retourner Moscou.
Ouais. »
Et là, il comprend que c'est la fin. Effectivement, s'il revient à Moscou, comme il s'est comporté de manière très rebelle pendant les 3 semaines de représentation et qu'il sortait constamment avec des Français, ce qui était évidemment totalement interdit, il sent qu'il va être alors littéralement puni, réexpédié probablement à Oufa, voire même subir des brimades beaucoup plus graves. Donc il sait que là... il ne peut pas retourner.
Il a peur.
Hein.
On l'entend même dans sa voix, dans l'archive qu'on a entendue. On sent, il minimise. Il dit mais non, c'est parce qu'il y a eu un malentendu. Pas du tout. Il a eu très peur.
Il était totalement effrayé à l'idée de devoir rentrer à Moscou et totalement effrayé aussi lorsque il réussit à se réfugier dans les bras de 2 policiers français. Il le dit lui-même. Il était convaincu que la France allait faire grand cas de sa situation, de sa défection et le rapatrier en Union soviétique.
Parce qu'il y a une jeune femme qui joue un rôle important, qui s'appelle Clara Saint, qui était, je crois, la fiancée du fils d'André Malraux, qu'il avait rencontrée à Paris dans les 3 semaines qui précédaient. Elle vient à toute allure au Bourget parce qu'il lui a téléphoné et lui dit, écoute, elle va chercher 2 policiers français et qui lui disent, non, on ne peut pas enlever comme ça quelqu'un. Il était sur le point de prendre son Tupolev, de prendre son avion, et c'est Clara Saint qui lui dit, cours vite vers les policiers. Et il y a les gens du KGB qui le ceinturent, c'est absolument extraordinaire. Alors, évidemment, ça a eu un énorme retentissement en France et même dans le monde parce que, vous le rappelez, Ariane Dollfus, on est en pleine guerre froide et c'est pour ça que cette défection, ce passage à l'Ouest, ce choix de la liberté, comme on entend dire, ça a été pris très au sérieux.
Très au sérieux, étonnamment, parce que beaucoup d'artistes ou de soviétiques avaient pu faire défection par le passé. Or effectivement, Issa Nourieff ne pouvait pas le savoir, lorsqu'il fait défection le 16 juin 1961, on est un peu au summum de la crise, au summum de la guerre froide, puisque Kennedy venait de subir le revers à Cuba avec le débarquement raté de la baie des cochons, alors qu'à l'inverse, les soviétiques venaient de réussir la première sortie dans l'espace. De Gagarine. Il y avait le problème du statut de Berlin, donc...
Le mur allait être construit 2 mois plus tard.
Absolument. Et Nourieff, dans tout ça, arrive. Et effectivement, l'Occident trouve formidable de récupérer ce gros poisson et d'en faire une icône, quelque part, de la dissidence.
Et de faire passer son choix, justement, pour un choix politique, alors que, vous le dites, Ariane Dollfus, c'est un choix artistique, en réalité. C'est pour faire carrière en Occident, parce qu'il croyait qu'elle était brisée dans son pays, en URSS.
Ah, tout à fait. Nourieff, ses amis soviétiques le disent toujours, il ne parlait jamais politique, ça ne l'intéressait pas. Lui, pour lui, il s'agissait d'une dissidence purement artistique. Il avait envie de découvrir le monde, il avait envie de découvrir les chorégraphes occidentaux, chose qu'il ne pouvait pas faire à Leningrad.
Et ça allait lui permettre justement de triompher immédiatement dans le ballet du Marquis de Cuevas.
Démasquons sans plus attendre ce danseur étoile, surpris en pleine répétition de La Belle au bois dormant. Il s'agit de la vedette du ballet de Leningrad, Rudolf Nureyev, qui a choisi la liberté pour entrer dans la compagnie du marquis de Cuevas. Certes, on peut épiloguer à loisir sur la décision de Nureyev. A-t-elle une signification politique, sentimentale, voire même tout simplement artistique? On ne sait. Une chose est sûre, en tout cas, Nureyev a du talent. Et devant cette légèreté bondissante, le souvenir de Nijinsky surgit irrésistiblement.
Et c'est un extrait de La Belle au bois dormant, le premier ballet dansé par Nourieff après son passage à l'Ouest, où il est comparé, on l'a entendu, à Nijinsky, qui était la grande vedette du XXe siècle, qui était mort en 1950.
Donc, à l'époque, on avait dit que l'Union soviétique avait son Spoutnik.
Oui.
En référence au Spoutnik de 57.
Pour quelqu'un qui, comme moi, ne sait pas faire la différence entre notre chat et un pas chassé, qu'est-ce que Nourieff avait de plus que les autres, vous qui l'avez vu plus tard, hein, pas à cette époque-là, vous étiez à peine né, mais un peu plus tard, dans les années 70, je crois, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Pourquoi est-ce que c'est devenu un phénomène comme ça de la danse? Vous dites que c'est un danseur transgressif.
Oui, c'est un danseur qui servait le répertoire classique particulièrement bien, mais surtout qui a su moderniser ses rôles de prince. Avec Nourieff, on n'avait pas seulement de la pure technique. On avait un acteur. Et d'ailleurs, il revendique beaucoup, lui, cette idée qu'un danseur doit surtout jouer son personnage. Il travaillait ses rôles de manière très intelligente et pas seulement sur la simple technique de la danse, mais surtout, il avait une éloquence du corps. Vous avez des danseurs qui abattent une série de prouesses techniques. Nourieff, lui, incarnait, vivait littéralement ses personnages. Et il savait leur donner aussi une vie réelle. Il disait toujours, la vraie vie est sur scène. Et ça, il faut le prendre à double tranchant. Ça veut dire aussi que sur scène, on doit être comme dans la vraie vie. Et là où des danseurs sont précautionneux, lui, Nourieff, rentre en scène et, par exemple, pouvait arrêter un orchestre. Si le tempo lui convenait pas, s'il perdait son chausson, voilà, il lâchait le chausson et puis il le jetait en coulisses et puis il recommençait sa variation. Il y avait une espèce de vie, il y avait une espèce de naturel dans la danse de Nourieff qui fait que ça prenait, évidemment.
Et qu'on le demandait partout, c'était une véritable rockstar, hein, si je puis m'exprimer ainsi, Ariane Dollfuss. Au fond, il a, en quelque sorte, c'est ce que vous dites, il a un peu popularisé quelque chose de très académique, réservé à une élite de gens qui s'y connaissent. Là, c'était devenu très populaire avec lui. C'était l'équivalent, à la même époque, au fond, des Beatles. C'était un danseur, mais...
Ah, tout à fait. On a même dit de lui qu'il était le cinquième Beatles dans les années 60. Les Anglais adoraient Nourieff. Les Anglais le disaient de lui. Dès 1962, un critique anglais parle de lui comme d'un pop star dancer. Et c'est tout à fait étonnant pour l'époque, effectivement, puisque le ballet classique est quand même un art dansé dans des maisons d'opéra, très académique, pour un public extrêmement bourgeois. La force de Nourieff, ça a été aussi d'être adulé par les jeunes. Et ça, c'est vrai qu'un artiste récupéré par la jeunesse devient une idole beaucoup plus facilement qu'un artiste pour un public plus consensuel et plus âgé.
Et alors, il parcourt le monde entier, on l'appelle partout, à Londres, à New York, évidemment, à Paris, à Milan, enfin bref, toutes les villes, toutes les grandes capitales, tous les grands opéras occidentaux, il fait le tour du monde, d'ailleurs, le plus souvent en compagnie de sa partenaire favorite, la danseuse britannique la plus célèbre des années 60, Margot Fonteyn, France Inter, Yves Mourouzi, le 22 mai 1971.
À partir de demain soir, au Palais des Sports, un événement que l'on attendait, la rentrée à Paris de Margot Fonteyn aux côtés de Rudolf Nureyev dans cette Belle au bois dormant présentée par l'Opéra de Marseille, présentée avec succès par l'Opéra de Marseille depuis une dizaine de jours. Et à Margot Fonteyn, vous allez aussi retrouver Rudolf Nureyev qui est à Paris depuis maintenant un peu plus de 15 jours. Rudolf Nureyev, quel genre de partenaire est-il pour une danseuse étoile?
Je trouve que c'est un danseur unique. Nureyev, il a des qualités à soi-même, c'est une grande vedette.
On a beaucoup dit que c'était un homme qui avait mauvais caractère.
Je ne crois pas, non. Il a un côté enfant de temps en temps, mais ce n'est pas un vrai mauvais caractère, non.
Ça vous a surpris, hein, ce que disait Margot Fonteyn, c'est peut-être l'amour qui aveugle. Hein. Il avait mauvais caractère. Il
était... Oui, elle est très diplomate, c'est la diplomatie britannique, ça. Mais elle disait aussi, Nureyev est un danseur très mature, mais un garçon très immature. Mmh. Effectivement, mais je crois surtout que là où elle a été particulièrement intelligente, c'est qu'elle a compris qu'elle n'allait pas changer Nureyev. Ils ont quand même dansé pendant 19 ans ensemble, ils avaient 20 ans d'écart tous les deux. Elle a été à la fois sa maman, sa nurse, sa partenaire... Il pouvait s'épancher avec elle et elle pouvait revivre une nouvelle jeunesse. Et elle a compris que finalement les incartades, les fougues, les colères de Nourieff, il fallait les laisser passer. Voilà. La tempête arrivait et puis le soleil... finit par arriver.
Un couple mythique au point qu'on s'est demandé s'il n'avait pas été son amant. C'est une énigme encore, dites-vous, Ariane Dollfus.
Oui, c'est une énigme. Leur entourage disent le vrai et le faux, et tout et son contraire. Je crois qu'on ne le saura jamais et finalement, c'est pas plus mal comme ça.
Alors, ce que l'on sait, en revanche, et il ne le cachait pas tellement, c'est qu'il était homosexuel, c'est qu'il avait de multiples aventures, dont une qui a été très sérieuse, avec un danseur qui était Eric Bune, mais c'était une homosexualité assez affichée à une époque quand même, en tout cas qu'il ne cachait pas, à une époque quand même où c'était dangereux de révéler, de montrer, il n'y avait pas de coming out encore, mais enfin, on savait qu'il l'était, de révéler son homosexualité.
Il ne l'a jamais révélé. Effectivement, il n'a jamais fait de coming out. Il n'a jamais parlé de sa sexualité dans les interviews qu'il donne. Il ne répond pas vraiment à la question. Il ne dit pas, mais il ne cache pas. Mais c'était une époque, quand même, dans les années 60-70, et peut-être même d'ailleurs encore aujourd'hui, où il était inimaginable de vivre son homosexualité de manière très ouverte et à le dire. Jean-Louis Borie dit d'ailleurs de lui-même qu'il faut avoir le droit à l'indifférence, c'est-à-dire de non pas d'avouer son homosexualité, non pas d'en parler, mais d'être simplement et de le vivre ainsi. Et Nureyev a pris beaucoup de risques, effectivement, à l'époque, parce qu'il fréquentait des lieux publics, des jardins publics, des bars, des lieux de vie homosexuels. Et effectivement, il pouvait très bien avoir des soucis à l'époque où l'homosexualité était encore réprimée par la loi. Et il l'a fait, là encore, par esprit d'insoumission et puis de rébellion et de liberté. Nureyev, c'est ça. C'est quand même avant tout vivre sa liberté au plus haut point et en tout sens.
Rudolf, c'est chaque soir après le spectacle un steak, un mec. Hein. C'était pas une homosexualité amoureuse, c'était véritablement purement physique, cette homosexualité de Nureyev.
Oui,
sauf avec Bune, justement, qu'il a aimé.
Oui, mais c'était un mode de vie qui était le sien. Et il avait des envies sexuelles à hauteur de son envie de danse, hein, c'est-à-dire constante.
Et alors, un homme aussi qui parcourt le monde avec un voyage très particulier. Il ne s'agit pas d'aller danser quelque part, mais celui qu'il fait en novembre 1987 pour retrouver son pays natal qu'il avait quitté depuis 26 ans. Il revient en Russie à la faveur de l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev. France Inter, Ulysse Gosset, le 14 novembre 1987.
Vous allez revoir vos amis que vous avez laissés il y a 26 ans ?
Pas tous. Le principe voyage, voir ma mère.
Vous êtes ému ?
Peut-être, oui.
Est-ce que vous pensez que votre retour a été possible à cause de l'arrivée au pouvoir de M. Gorbatchev ?
Oui, peut-être, mais aussi... It's in the cards, it's inevitable, inévitable.
Est-ce que vous allez danser à Moscou bientôt?
Non, je ne crois pas que le directeur de ballet ait envie d'inviter quelqu'un très vieux comme moi.
Assez pathétique, vous le dites, ce retour en Russie, sa mère ne l'a pas reconnu, elle mourra d'ailleurs 3 mois plus tard.
Oui, c'est terrible, parce que finalement, toute sa vie, Nureyev a demandé à revoir sa mère. Il est allé jusqu'à se présenter au Congrès américain pour demander que Nixon intercède en sa faveur. Il y avait eu des pétitions partout dans le monde, avec plus de 100 000 signatures, pour accorder à la famille Nureyev le privilège de pouvoir faire venir cette femme assez âgée. Et effectivement, lorsque Nureyev revient en 87, sa mère est excessivement malade et il ne saura jamais si elle l'aura reconnue.
Alors il avait 49 ans, il était encore assez jeune, contrairement à ce qu'il disait, pour continuer de danser. Il était aussi directeur du ballet de l'Opéra de Paris, nommé par Jack Lang en 1982. Il en sera chassé 7 ans plus tard. On dit que c'est parce qu'il était trop dispersé, qu'il était trop absent de l'opéra, parce qu'il a aussi chanté une chanson, c'était scandaleux à l'époque.
Chanté une comédie musicale, oui.
Une comédie musicale. Et bref, qu'il a même essayé de diriger un orchestre. Et alors, surtout, c'est un homme très atteint, très diminué, déjà depuis 83, depuis qu'il le sait, il est atteint par le sida.
Oui, tout à fait. Il a été l'un des premiers malades, d'ailleurs, hein, à l'époque où on parlait encore du cancer gay, et non pas du sida. Le virus du sida est compris en 1983, effectivement 83-84. Et Nourieff est une force de la nature, puisqu'il meurt en janvier 1993, soit près de 12 ou 13 ans, on ne sait pas exactement quand il a été contaminé, 12 ou 13 ans après avoir été contaminé. Il vit avec ça et il n'en parlera jamais. Et même avec ses amis d'ailleurs, il ne prononçait jamais le mot de sida. C'était quelque chose qui n'était pas forcément tabou pour lui, mais c'était cette idée que s'il n'en parle pas, alors il peut le vaincre. Mmh. Et la fin de vie de Nourieff est extrêmement bouleversante, parce qu'il va passer d'hôpitaux en théâtre et de théâtre en hôpitaux et ne jamais cesser de danser, parce que pour lui, s'arrêter de danser, c'était mourir. Et ça, les gens de l'extérieur pensaient qu'un danseur s'arrête de danser mais continue à avoir une seconde vie. Nourieff, lui, savait que cette seconde vie-là lui serait empêchée.
La danse se perpétue par immolation, hein, disait-il. Et c'est vrai qu'il a continué jusqu'au bout. Il y a une scène assez pathétique, il vient de monter la Bayadère à Paris, et puis il apparaît sur scène, et là on voit, et on le voit en photo dans votre livre, Ariane Dollfus, on voit un vieillard, alors qu'il a à peine 54 ans, mais c'est un homme décharné, et tout le monde est autour de lui. Il y a une grande émotion, rien que dans la photo que l'on voit dans votre livre, et vous dites d'ailleurs que ça l'a profondément ému.
Oui, tout à fait. Moi, je me souviens, parce que j'étais là ce soir-là, en octobre 92, à l'Opéra Garnier. Et ce qui était assez beau, c'est que Nourieff est allé jusqu'au bout. Il a assisté aux répétitions jusqu'au bout, même allongé sur un canapé. Et en réalité, quand on a dit qu'il n'avait jamais fait son coming out et jamais parlé de cette maladie, finalement, le simple fait même de se présenter devant son public, c'était une façon de dire, effectivement soutenu par les danseurs parce qu'ils pouvaient à peine se tenir debout, c'était une façon de le dire sans l'exprimer clairement, mais de se montrer à son public. Et en même temps, ce jour-là, il faisait ses adieux à la danse, il faisait ses adieux à son public et finalement aussi ses adieux à la vie.
Il meurt à la tête d'une fortune absolument immense. Il y a quelque chose d'assez sordide qui se passe, et la façon dont on s'arrache ensuite ses biens, tout ce qu'il avait pu accumuler, parce qu'il était immensément riche. C'est là où, quand on lit votre livre du début à la fin, quand on voit ce passage du petit tatar musulman perdu au fin fond de la Sibérie, devenu immensément riche, et tout le monde se rue sur les dépouilles, si je puis dire, du personnage, sur cette fortune. Lui qui se fait enterrer au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, cimetière russe, c'est assez émouvant aussi. Cette scène où il y a cette cérémonie magnifique à l'opéra pour lui. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de lui à Ariane Dollfus? En quoi est-il marqué? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on cherche le nom d'un danseur pour quelqu'un qui n'y connaît rien, encore une fois, tout de suite c'est le nom de Nourieff qui vient encore en tête?
Je crois d'abord que Nourieff a étonnamment incarné le XXe siècle. Au-delà même du danseur, au-delà du fait qu'il a profondément modifié le statut du danseur, l'image du danseur, soudain, grâce à Nourieff, on peut penser, n'importe quel petit garçon peut se dire, ah oui, alors je peux devenir danseur, je peux vivre de ma danse. Et Nourieff l'a particulièrement bien montré. Et à chaque fois, à chaque étape de sa vie aussi, il a incarné le XXe siècle. Et je crois que c'est ce qui fait la différence entre un artiste et un mythe. C'est qu'un artiste, on l'aime pour son art, et un mythe, on l'aime parce qu'il incarne son temps.
Merci Ariane Dollfus. Ben, Nourieff, on le retrouve beaucoup plus longuement dans un livre vraiment passionnant dont je recommande la lecture, Nourieff, l'insoumis, qui a été publié aux éditions Flammarion. Je signale également que la première du ballet de Rudolf Nourieff, Don Quichotte, eh bien, a lieu ce soir à l'Opéra Bastille par le ballet de l'Opéra et l'Orchestre de l'Opéra National de Paris, dirigé par Pavel Sorokin, et qui sera à l'affiche jusqu'au 1er avril 2007. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1961, extraite du journal de votre année, et disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Clotilde Thomas et Christian Thibaudeau, documentation et archivina Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Kobilac.